une histoire particulière. Alors qu'il n'est plus possible de se rendre dans les musées en raison du confinement causé par l'épidémie du coronavirus, je vous propose ce week-end une visite virtuelle au musée municipal de Saint-Germain-en-Laye. Le jongleur, ou le bouffon, ou encore le prestidigitateur est une huile sur bois attribuée au peintre néerlandais Jérôme Bosch. Réalisé entre 1475 et 1505, il est conservé dans un coffre-fort au musée municipal de Saint-Germain-en-Laye. On l'appelle aussi l'escamoteur. Michel Pomarède et François Teste vous emmènent dans les méandres de son histoire, un vrai tour de passe-passe. Un peu de magie en ce début d'année ne peut que vous faire du bien.
L'escamoteur, escamoté. Michel Pomarède, François Teste.
Alors là, ça y est, le tableau est sorti de sa caisse. On enlève le papier, le Tyvek hein, qui protège l'ensemble. Et puis la mousse qui protège la surface vitrée. Et voilà, le voilà prêt à l'accrochage.
Tableau, bonneteau, escroc, ou chercheur, auteur, voleur, ou art, polar, bizarre. Faites vos jeux.
Olivia Savatier, vous êtes conservatrice au département des arts graphiques. Oui. Le département des arts graphiques, c'est quoi ?
Le département des arts graphiques, c'est l'un des départements du musée du Louvre. Donc, il y a le département des peintures, le département des objets d'art, des sculptures et puis tous les départements antiques. Et nous avons en charge donc, la conservation de la collection de dessins et également d'estampes et de plaques de cuivre du musée du Louvre.
Un mot de description sur cette salle ?
Alors cette salle, en fait, était au départ la cage d'escalier des appartements d'honneur édifiés par Napoléon III pour les souverains étrangers, ouais, pour les réceptions des invités d'honneur. Et d'où la hauteur sous plafond, le décor Second Empire très luxueux, avec au plafond une toile de Cabanel et des bas-reliefs de Jeanne Guillaume sur les murs.
Alors, Olivia Savatier, on n'est pas venu voir le décor, on est venu voir ça. Et ça, c'est quoi ?
Alors, vous avez sous les yeux donc, un dessin de Hieronymus Bosch qui représente une scène de genre. On voit au centre de la composition un escamoteur, un charlatan, et en face de lui, une petite foule compacte qui assiste à son tour de magie.
Il est où?
Il est là.
Là.
L'as de trèfle pour 2 francs.
Tenu.
Vous allez vous faire plumer.
Il est où?
Alors, on voit à droite donc l'escamoteur en train d'effectuer son jeu de passe-muscade.
Il est habillé comment ?
Il est habillé donc d'une tunique rouge et surtout il porte donc à sa ceinture une jarretière qui est ici sous la forme d'une corbeille dans laquelle se trouve une tête de chouette. Là, on le voit dans la main droite en train donc de porter une muscade. C'était une balle de liège donc à l'époque du XVIe siècle. Et il se trouve donc devant une table à tréteaux, telle qu'on pouvait en voir donc dans les foires, donc au Moyen Âge, sur laquelle se trouvent 2 gobelets en fer blanc. Sur l'un d'entre eux se trouve donc une balle de muscade, une baguette et un cône dans la partie centrale. Se trouvent également 2 autres balles.
Ève Rambose, vous êtes vidéaste, réalisatrice. Racontez-moi la première fois que vous avez vu l'escamoteur de Jérôme Bosch.
D'abord, je l'ai rencontré dans un livre, qui était un livre sur Jérôme Bosch. Et après, je l'ai vu au musée de Saint-Germain-en-Laye.
Il a été acquis par le legs de Louis-Alexandre du Castel en 1872. Louis-Alexandre du Castel était notaire. Il s'est installé à Saint-Germain-en-Laye en 1813. Il a été maire à titre provisoire dans les années 1830. Et surtout, c'était un collectionneur dans la continuité de son père, qui s'appelait Alexandre Jean du Castel, qui lui était négociant à Paris, qui a vécu essentiellement donc à la fin du XVIIIe siècle et qui est mort en 1805, et qui était un amateur d'art, qui a constitué ce premier noyau de collection.
L'escamoteur, est-ce que c'est le seul titre qu'a ce tableau de Bosch?
Oui, alors on voit aussi parfois dans les livres le charlatan ou bien le jongleur.
Le bouffon. Un mot quand même sur Hieronymus von Hacken, puisque oui. C'est le vrai nom oui. de Jérôme Bosch.
Oui.
Bosch, ça vient d'où?
Alors ça vient de la ville, puisqu'il est né, il a travaillé, il est mort en français on dit Bois-le-Duc, mais en néerlandais c'est Hertogenbosch. Et voilà, c'est la diminution de Bosch. Voilà.
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, qui était la résonance de trois éléments. Vous voyez le cercle en haut à gauche du tableau, le cercle au milieu du tableau et le cercle à droite. Le premier, c'est un trou. Ils ont tous les trois le même diamètre. Le deuxième, c'est un cercle, c'est un trait. Il raconte le cerceau. Et le troisième, c'est un volume. Il raconte la bourse du magicien. C'est trois manières de traiter un cercle. C'est très étonnant parce que ça a une résonance sur le tableau qui est à gauche. Il y a le personnage qui est le voleur, qui fait un trou évidemment dans la bourse, qui est donc en résonance avec le premier trou. Et en plus, ce voleur, il est habillé en moine. Le moine, évidemment, c'est un religieux en fait. Donc c'est un religieux qui détrousse les gens. Ce qui est intéressant dans le contexte politique et social de l'époque. Au milieu, on a le cerceau qui est très lié au petit chien qui ressemble à une sorte de pincher nain, qui est le même petit chien qu'il y a dans la Tentation de Saint-Antoine. Exactement le même, mais flippé, c'est-à-dire retourné de gauche à droite, et qui est le chien du diable. C'est peut-être une coïncidence, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et enfin, on a la chouette ici, qui est dans la bourse du magicien. La chouette, on sait que c'est la signature de Bosch. On sait que c'est un animal à la fois positif. Positif s'il a une référence à la Grèce antique sur l'attribut d'Athéna. Mais c'est également un élément négatif qui est la proie. Enfin, cet oiseau, il voit là où personne ne voit, quoi, puisqu'il voit la nuit.
C'est à la fois sagesse d'un côté et duplicité
oui,
de l'autre.
Mais il y a les deux, et c'est très important dans l'œuvre de Bosch, il y a toujours à la fois le paradis et l'enfer. Et l'oiseau, la chouette, c'est ce qui va signer la majorité des œuvres de Bosch.
Inspecteur Bosch, police de Los Angeles, Hollywood.
Combien de personnes avez-vous tué?
Je l'ignore.
Robert Pépin, vous êtes le traducteur de Michael Connelly. Pourquoi est-ce que Michael Connelly a appelé son héros récurrent, détective au LAPD à Los Angeles, Bosch?
Connelly, que je connais bien, adore les tableaux de Bosch. Et donc, il y a toute la série sur le paradis et sur l'enfer. Et vraiment, la vision... ce qu'il décrit, c'est l'enfer de Los Angeles, c'est-à-dire le versant inconnu d'une ville. Il décrit Los Angeles comme une ville qui attire des tas de gens, en particulier à cause du cinéma, et petit à petit, leurs rêves sont brisés. Et donc, ça correspond bien avec la vision d'un côté paradisiaque de Bosch, et de l'autre côté, l'enfer, qui est quand même, ses tableaux les plus connus, c'est plutôt du côté de l'enfer que du côté du paradis. Ils sont bien, le paradis, mais l'enfer, c'est quand même beaucoup mieux.
Frédéric Helsig, vous êtes professeur d'histoire de l'art médiéval à l'Université de Genève et vous avez consacré aussi votre thèse de doctorat à Jérôme Bosch et la question de la chronologie. Et donc si je m'arrêtais juste sur le mot chronologie, est-ce qu'on peut dater précisément l'escamoteur?
Alors oui, ça c'est effectivement une question assez épineuse. Pendant très longtemps, on a considéré qu'il s'agissait d'une œuvre de jeunesse de Jérôme Bosch, constitué dans les années 1470, En 2001, à l'occasion de l'exposition de Rotterdam, une analyse dendrochronologique a été réalisée qui situe la réalisation de l'œuvre après 1496, c'est-à-dire en comptant à la fois le temps de séchage sur les derniers cernes, c'est-à-dire après l'abattage de l'arbre. Par ailleurs, certains costumes, notamment celui de la patricienne, paraissent datés du début du XVIe siècle. Donc, pour ma part, je situe l'œuvre autour de 1510 en faisant converger ces deux indices.
Aurélien Gomboni, vous êtes artiste, mais aussi chercheur, on pourrait dire. Et l'objet de votre recherche, c'est l'escamoteur attribué à Jérôme Bosch. Qu'est-ce qui a motivé cette longue enquête autour de ce tableau ?
Alors, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce tableau, il y avait comme ça une espèce de conjonction d'éléments. D'abord, c'était, à mon souvenir, à peu près au moment où la crise économique mondiale touchait l'Europe. Et au même moment, par une espèce de hasard à Genève, on avait des groupes de joueurs de bento, qui font donc ce jeu de la balle et des gobelets, qui commençaient à investir la ville de Genève. On en voyait partout. Ils étaient extrêmement efficaces. Ils se relayaient très structurés avec les différents complices, etc. Et moi, je voyais ça et je trouvais intéressant le fait d'avoir cette scène de manipulation comme ça, de tour de passe-passe, en même temps qu'on discutait de toutes ces grandes formes de tour de passe-passe économiques et financiers. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce tableau, l'escamoteur.
Donc ça, c'est vraiment c'était quelle année, en tête, quoi. C'était quelle année?
C'était à partir de 2008, à peu près.
Et trois ans plus tard, la ville de Genève rend illégal le jeu de bento là où vous habitez, à Genève.
Ouais, exactement. C'était très compliqué. Mais il faut dire que c'est ça qui est intéressant avec ce tableau, c'est qu'il représente une scène, et il nous donne une indication qu'elle existe de la manière dont on peut la voir encore aujourd'hui, à peu près sous la même forme. C'est assez saisissant. Elle a vraiment traversé les siècles. Elle est extrêmement, redoutablement efficace.
Alors l'escamoteur tient dans sa main droite une petite balle et devant lui se trouve une table sur laquelle sont disposés trois gobelets et en fait on comprend qu'il se livre à un tour de magie qui est encore aujourd'hui bien connu, à savoir qu'il il place les balles, les dissimule sous les gobelets et en fait on comprend que le tour de magie consiste à faire disparaître les balles sous les gobelets et ces les balles réapparaissent dans la bouche d'un de ses assistants qui est dissimulé dans la foule, un jeune garçon en fait qui recrache les balles. On voit une série de quatre balles comme ça qui s'échappent les unes après les autres de la bouche de ce garçon.
Donc, jeu de bento perpétré, on pourrait dire, par l'escamoteur, vol par un complice. Ce dessin, c'est une esquisse de Bosch qui donnera ensuite le tableau intitulé du même titre, l'escamoteur.
Alors, c'est une esquisse, effectivement. C'est une première idée pour une composition qui représente donc cette scène. Le tableau de Saint-Germain-en-Laye, en fait, resserre le cadrage, puisqu'il y a moins de personnages. En fait, le tableau de Saint-Germain-en-Laye met en scène un face-à-face entre l'escamoteur, d'une part, et cette foule compacte, d'autre part.
Olivia Sabatier, est-ce que l'enjeu de cette esquisse de Bosch, c'est aussi un travail sur le jeu des regards? Qui regarde qui?
En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir dans cette... J'avais un angle très particulier, si vous voulez. Je m'intéressais à voir dans cette scène une sorte de représentation exemplaire d'un dispositif de captation de l'attention. Et je me posais beaucoup de questions sur la manière dont aujourd'hui, on capte notre attention, elle est manipulée, on la fait travailler, on va la raffiner, et puis on va aussi la vendre. Et pour moi, je me disais, ce tableau peut nous donner des enseignements, en fait, sur ce type de questions.
Une série de figures qui sont projetées au premier plan devant un muret. Tout d'abord, un batteleur qui est coiffé d'un chapeau haute forme, caractéristique des gens du voyage et des batteleurs, qui est en train de réaliser un tour de passe-passe avec des noix de muscade et des gobelets situés sur un plan, sur une table. Il est en train de tromper un personnage très curieux, que l'on a considéré parfois comme une vieille femme, le plus souvent comme un homme, qui est accompagné d'un enfant, symbole de la sottise probablement, et qui est en train de se faire dérober une bourse par un complice du battleur, sous les yeux d'une petite foule qui est groupée juste derrière, et dans laquelle se trouve un couple qui joue un rôle très particulier, puisque dans ce couple, l'homme semble mettre en garde la femme du tour réalisé par le battleur et surtout de l'escroquerie du complice.
Dans ce jeu de captation de l'attention, je pense que la tension la plus forte, elle réside quand même entre la victime du vol dans cette espèce de petit attroupement de personnes à gauche, au premier plan, qui est basculée en deux, vraiment, qui fixe la petite balle qui est dans la main du magicien. Donc, une espèce de situation quasiment d'hypnose dans laquelle on peut se retrouver quand on suit ce mouvement de la balle qui apparaît, qui disparaît, qui réapparaît. Et il y a une espèce d'analogie très très forte entre le regard, l'œil de la victime et la balle qui se trouve exactement sur la même horizontale.
Donc la victime, elle est pliée en deux.
Exact.
Penchée, courbée, en face, l'escamoteur, personnage principal, maître de cérémonie, maître de jeu.
Absolument. Et puis on a la table, et il n'y a pas eu beaucoup d'écrits en fait sur cette table, et moi je me suis beaucoup intéressé à cet élément-là.
Description de la table.
La victime est face à la table, à la base, et nous on est face au tableau, et il y a une analogie entre la table et le tableau qui est très très forte, et même si on se rit de cette situation, on doit se demander mais de quoi on est peut-être en train de se faire piéger. Et si au contraire on adopte la posture de la victime et qu'on regarde depuis son point de vue cette table, justement, donc si on la bascule à 90 degrés sur la gauche, là on peut voir apparaître un visage.
Là, le gobelet, c'est le nez, la grenouille pour la bouche et les deux yeux avec les deux autres petits gobelets.
Ève Rambose, dans ce tableau de l'escamoteur de Jérôme Bosch, qui regarde qui?
C'est la table. L'humanité regarde le monde. Regardez, il y a même un œil qui vise plus. Donc c'est l'humanité qui regarde le monde. Et le monde, il est composé de quoi? Il est composé de dictateurs, de magiciens, de gens qui ont la parole et qui font des tours, de voleurs, les banques, la religion, les choses comme ça, et puis de peuples.
Mais est-ce que l'escamoteur, c'est un autoportrait de Jérôme Bosch?
Dans un certain sens, oui, puisque, évidemment, parlant à la première personne, on sent véritablement, à travers une œuvre de ce type, une sorte d'intellectuel de la peinture, un équivalent des hommes de lettres, comme Erasme à son époque, qui ironise sur ses contemporains, et leur demande véritablement de faire attention. On peut s'interroger sur le personnage qui fait partie du couple et qui met en garde la femme contre l'illusion, mais on peut également noter tout à côté de lui un visage qui n'est pas très éloigné de celui que l'on trouve dans le volet droit du Jardin des Délices et qui peut faire penser qu'il y a une sorte de portrait idéalisé de Jérôme Bosch à l'intérieur de l'escamoteur.
Robert Pépin, portrait de Hieronymus Bosch, qui est-il?
D'abord, sa mère est une pute. Son père l'a abandonné. Attendez, je ne me souviens plus.
Son père est avocat.
De la pègre à Las Vegas, en particulier. Et il s'est remarié. Ensuite, et son demi-frère, c'est Mickey Haller. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que entre Bosch, qui enquête sur des criminels, et son but, c'est de les foutre en prison, et Haller, qui lui est un avocat de la défense, et dont le but est d'empêcher que ces types aillent en prison, Connelly fait quelque chose d'extraordinaire, il couvre tout l'arc du crime.
Ses qualités, ses défauts?
Alors, sa qualité, c'est qu'il ne lâche jamais. dès qu'il a mis les crocs dans une histoire, il n'y a rien à faire, il ira jusqu'au bout, il trouvera le coupable et il le donnera à la justice. La deuxième chose, c'est que pour arriver à coincer ces types, il n'hésitera pas à s'opposer à la hiérarchie. C'est-à-dire, par exemple, il défenestre un de ses supérieurs dans un de ses romans, ce qui est quand même pas mal. Ce qui lui vaut d'ailleurs d'être foutu à la porte. Au niveau des défauts, disons que la qualité qu'il a d'aller jusqu'au bout lui fait faire des trucs qui sont pas forcément complètement dans le domaine de la légalité. Ce qui ne l'embête pas.
Imaginons, Robert Pépin, Harry Bosch fait face au tableau de Bosch. À quoi il pense face à ce tableau qui raconte un jeu de bonneto?
Vous me mettez dans une drôle de situation.
Alors, le personnage courbé, penché.
Alors, personnage courbé, là, il est énigmatique parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Toutes les hypothèses ont été émises. Elle a une bourse à l'arrière qu'une personne lui soutire. Et puis, elle crache une grenouille. Et c'est cette grenouille qui symbolise la crédulité. C'est cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'elle se fait vraiment avoir et elle se fait gober.
Alors la grenouille, j'ai bien envie de dire quelque chose dessus, parce qu'une des références, une des analyses à un moment donné, dans les multiplicités d'analyses de l'œuvre qui ne se superposent pas, mais qui ne s'additionnent pas, ça renvoie à Néron. Parce que l'histoire de Néron, c'est que Néron, un jour, il voulait avoir des enfants. Et donc il convoque tous les médecins. Et il dit, voilà, je vais avoir un enfant. Les médecins lui disent, mais Néron, c'est impossible. Et il insiste. Et donc, les médecins décident de lui faire avaler des grenouilles. Une grenouille ou un crapaud, on ne sait pas. Mais lui, il va vomir le crapaud, puis il va arrêter de demander de vouloir être enceinte. Et apparemment, ce serait une référence à Néron. Et ça raconterait également comment avaler des grenouilles ou comment avaler des couleuvres. Ce serait ça. C'est un tableau magnifique, ouais.
Alors, c'est des balles dans cette esquisse de Bosch, et ça devient des grenouilles dans le tableau de l'escamoteur. Un élément de réflexion pour la transformation de la balle en grenouille.
Alors, clairement, dans l'invention de Bosch, il s'agissait plutôt de balles, parce qu'on a un deuxième dessin autographe de la main de Bosch, qui a été découvert plus récemment, qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Liège, et qui est une étude de détail pour cette figure du jeune garçon qui a les balles qui lui tombent de la bouche comme ça. Donc l'invention de Bosch, a priori, c'était plutôt effectivement les balles. Et il est tout à fait possible que la grenouille soit une trouvaille de ce suiveur de Bosch qui a vraisemblablement peint le tableau de Saint-Germain-en-Laye.
Alors voilà, parce que dans ce jeu de bonneteau et de dupe que raconte cette esquisse et le tableau de l'escamoteur, on pourrait dire qu'il y a une mise en abîme, c'est-à-dire que ce dessin, vous êtes certaine que c'est de Bosch?
Malheureusement, on ne peut pas être aussi affirmatif. C'est vrai que pour Bosch, il y a énormément de problèmes d'attribution, parce que pour les dessins, on n'a aucun dessin signé. Voilà, donc il n'y a aucun dessin absolument sûr. Et les tableaux, vous savez qu'ils sont pour beaucoup signés, mais que cette signature, en fait, fonctionnait plutôt comme une sorte de marque, hein, qui veut dire finalement... de l'atelier de Bosch ou dans le style de Bosch. Enfin voilà, c'est pas une signature qui permet d'attribuer le tableau avec certitude. Donc à partir de là, le jeu des attributions dans le corpus de Bosch, qu'il s'agisse des dessins ou des peintures, est extrêmement complexe. Et en fait, les spécialistes travaillent en étudiant à la fois les tableaux, les dessins et les dessins sous-jacents dans les tableaux. Et c'est par un jeu de comparaison entre toutes ces œuvres qu'on arrive à démêler voilà les vrais Bosch des œuvres des suiveurs. Mais évidemment, tout le monde n'est pas d'accord.
On se rend compte que l'exécution n'est pas celle qui caractérise les œuvres de Bosch. C'est une œuvre probablement réalisée à partir d'une invention du maître dans l'atelier de Jérôme Bosch. Et selon toute vraisemblance, elle est due à un peintre qui a collaboré avec lui dans les dernières années, c'est-à-dire autour de 1510-1515 environ, qui s'appelle Rilis Pan Edel.
Encore au XVIIe siècle, en fait, les élèves et assistants des maîtres au sein de l'atelier pouvaient peindre un tableau entièrement, mais ils n'avaient pas le droit de le signer en leur nom tant qu'ils étaient aux côtés du maître. Et c'est le maître qui signait. On a ce problème-là pour Rembrandt, en fait. Il y a des tableaux sur lesquels il a dû peindre 2-3 retouches et il signe Rembrandt. Rembrandt, effectivement, fonctionne aussi plutôt comme une marque. Voilà. Et donc, a fortiori, là, on est dans un atelier de la fin du Moyen-Âge, finalement, et donc c'est encore plus vrai. Bien sûr, Jérôme Bosch a peint énormément de scènes religieuses, mais là, et notamment pour le cas de l'escamoteur, il s'est ouvert à la scène de genre. Et ça, on peut dire que Jérôme Bosch est l'un des grands novateurs de ce type de représentation, la scène de genre étant la représentation d'une scène de la vie quotidienne. Ici, il s'agit d'un personnage de la rue qui n'était pas forcément bien apprécié de la part de la foule, enfin de la population. C'était un petit peu la personne qu'on mettait à l'écart. Ce qui faisait peur, justement, par ces jeux de tromperie, ces jeux...
Ces jeux de dupes,
il effrayait la population. Donc voilà. Et puis il y a toute cette connotation moralisante qui est très importante aussi avec Jérôme Bosch et notamment dans la scène de genre.
Pour moi, c'est une critique sociale. C'est une critique sociale en liaison directe avec le contexte social de l'époque. Et une critique donc de la religion, puisque à cette époque-là, la religion fait des dérives très importante, que ce soit au niveau de l'argent, de la corruption et du sexe, et que Jérôme Bosch en est marqué, et qui va introduire dans son œuvre, de manière presque systématique sur toute la fin de son œuvre, une critique virulente de la religion.
L'homme du Figaro du 6 mars 1972. Giscard d'Estaing en escamoteur, caricature de presse. Explication. Oui.
C'est la réplique du tableau où l'on voit le président Giscard d'Estaing en train de désigner la muscade comme la monnaie européenne en portant un grand sac dans sa corbeille, donc un immense sac dans lequel il est écrit Bruxelles.
Et en face, l'oncle Sam.
L'oncle Sam, oui, enfin...
L'Américain qui va être dupé.
Voilà.
L'escamoteur escamoté, avec Agnès Virol et Olivia Savatier, respectivement conservatrices au musée de Saint-Germain-en-Laye et au département des arts graphiques du Louvre. La vidéaste Ève Rambose, Robert Pépin, traducteur des polars de Michael Connelly, et l'artiste Aurélien Gamboni. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, assistée de Sylvia Favre, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomared.
La suite de l'histoire du tableau L'escamoteur escamoté, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.